Par interview sur un district radio, Julie Chaise-Martin, rencontre avec des acteurs et des personnalités du monde de l'art. Bonjour à tous, bienvenue sur Art District Radio et comme chaque semaine, l'émission Art Interview rencontre des personnalités du monde de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans depuis 2015 et conservatrice des collections modernes du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Bonjour Olivia Voisin.
Bonjour.
Alors, ravie de vous rencontrer aujourd'hui, alors virtuellement, puisque nous sommes par une conversation Zoom ce matin, et nous allons justement parler de virtuel, donc ça tombe bien tout au long de cette interview, puisque le musée des Beaux-Arts d'Orléans se visite aujourd'hui aussi en virtuel. L'auditeur ou le visiteur a la possibilité aujourd'hui donc de se connecter sur le site internet du musée des Beaux-Arts d'Orléans pour visiter l'exposition temporaire en ce moment qui est à l'affiche, qui s'intitule « Jean-Marie Delaperche, un artiste face aux tourments de l'histoire ». C'est une véritable redécouverte, hein, cette exposition. Alors, je suis allée, moi, juste avant de faire cette interview sur cette exposition virtuelle, et j'avoue que j'ai été complètement séduite. C'est magnifique, hein, ce site en visite finalement 360 degrés, on appelle ça comme ça, je crois. Alors, Olivia Voisin, depuis quand on peut visiter cette exposition virtuellement ? Et parlez-nous voilà, de ce projet de bibliothèque virtuelle, puisque cette exposition est un peu la pionnière pour le Musée des Beaux-Arts d'Orléans.
Alors, c'est un projet qui est né lors du premier confinement. L'exposition Jean-Marie Delaperche, qui a mis 3 ans à être préparée, avec énormément de recherches, on va en reparler, venait juste d'ouvrir et il a fallu la refermer aussitôt. Donc, c'était évidemment extrêmement frustrant. Jean-Marie Delaperche, en effet, est une découverte. C'est un artiste particulièrement atypique qui, de son vivant, donc il naît en 1771 et meurt en 1843, a tout fait pour rester inconnu, en tout cas a tout fait pour ne pas intégrer les réseaux officiels. C'est quelqu'un qui veut rester libre et qui va partir en Russie pendant 20 ans, de 1804 à 1824, ce qui a contribué aussi à le mettre hors des radars, et à son retour en France, va continuer une pratique qui ne nous arrange pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne signe pas. Et donc, il n'expose pas au salon, il ne signe pas et il travaille pour des réseaux autres, ce qui en fait finalement un ovni, puisque aujourd'hui, on le découvre à la faveur de 91 grands dessins. Et quand je parle de dessins, il s'agit en fait de petites peintures au lavis, dont 3 étaient signés et ont permis de mettre un nom sur une œuvre, et une œuvre particulièrement saisissante, puisque d'une certaine façon, il est le premier romantique français. En allant en Russie, il est totalement immergé dans une culture bien plus large que celle que l'on peut avoir en France, notamment au contact des artistes britanniques. Il va développer une iconographie qui est celle qu'on découvrira bien plus tard en France avec Delacroix et toute sa génération. Donc, c'est un pionnier, une sorte de rebelle qui va être en dehors de l'esthétique en vogue. Il est pourtant élève de David, donc il a été dans le premier atelier de David en même temps que Giraudet, que Gros, va nourrir un univers très fantasmagorique, très saisissant aujourd'hui. Il est une sorte de Goya français ou de Fuseli français. Et donc, il était important qu'on puisse faire découvrir cette œuvre à tous les visiteurs, et malheureusement le Covid a mis un terme à ce beau projet. Et il a fallu attendre donc la réouverture des musées pour vraiment avancer avec Extra Art, qui est une entreprise montpelliéraine composée d'une personne qui a travaillé notamment chez Ubisoft, donc habituée des ambiances immersives, et un historien de l'art, docteur en histoire de l'art, qui lui apporte justement tout le contenu et tout, en tout cas les outils que peut attendre un amateur d'art face à une visite virtuelle, puisque l'idée n'est pas simplement de pouvoir montrer l'espace, mais de pouvoir retranscrire toutes les sensations que l'on a dans une exposition.
Oui, alors comme ça, on peut se balader de salle en salle, comme si on était véritablement dans le musée des Beaux-Arts, et on voit les cartels, on voit les œuvres, on peut zoomer sur les œuvres, on a une voix off aussi qui nous raconte l'histoire, donc en fait c'est une narration qui reprend les textes de présentation de salle. On est vraiment dans le musée, et j'allais dire, c'est presque plus la peine d'aller au musée après. Comment ça Comment vous allez finalement régler cette question du visiteur qui est chez lui, qui prend plaisir à visiter cette exposition en accès complètement gratuit et libre, hein, je précise. Alors évidemment, en cas de Covid, je comprends puisqu'on est confiné, donc on peut vraiment pas se déplacer. Donc là, la question ne se pose pas. Mais est-ce que l'idée est de poursuivre cette démarche une fois qu'on aura retrouvé une situation normale en France? Est-ce que vous allez poursuivre cette démarche de réaliser des expositions virtuelles ou est-ce que c'était vraiment uniquement pour la période du confinement?
Alors évidemment, la période du confinement nous a confrontés à une réalité, c'est qu'à un moment donné, un projet qui a une durée temporaire bien, bien précise, 3 mois, 4 mois au maximum, peut ne pas trouver son public. Alors tout cela semble évident, c'est la nature même de l'exposition temporaire qui reste par la suite par son catalogue. Et il y a quelque chose de très frustrant à cela. Il faut se mettre à la place du commissaire qui doit décrocher son exposition après avoir vécu des années avec son sujet. C'est un deuil éternel à chaque fois.
Oui, personnellement, voilà. Personnellement, vous avez évidemment subi de plein fouet ce confinement, puisque je le rappelle, l'exposition a ouvert en février. Donc, elle n'a été finalement visible que quelques semaines.
Quelques semaines, tout à fait. Et donc, la question de cette temporalité est évidemment très remise en cause hein, par l'année que nous sommes en train de vivre. Et la question qui se pose, c'est comment pérenniser finalement une exposition? Qui n'a pas rêvé de revoir une exposition vue il y a 20 ans, ou qui n'a pas rêvé de voir une exposition qui s'est tenue avant notre naissance par le passé? En tout cas, la question a été de pouvoir répondre à cette temporalité en offrant une archive qui conserve toutes les sensations de l'exposition. Alors, évidemment, on pourrait penser que le virtuel, l'immersif en tout cas, pourrait remplacer l'original, mais je crois que les musées n'existeraient pas si l'image numérique pouvait satisfaire ou en tout cas compenser l'original. Au contraire, les visites immersives ont deux finalités. D'une part, garder la mémoire des expositions et donc oui, à l'avenir, systématiquement, les expositions scientifiques seront numérisées de cette façon-là, en tout cas seront accompagnées, ce qui est un peu plus qu'une numérisation, pour avoir une archive immersive qui permettra, dans un coin du musée, d'ailleurs, de revoir les expositions. On aura, c'est pour ça que nous parlons de bibliothèque numérique. De chez vous, vous pourrez continuer de voir et revoir les expositions, et d'ailleurs très prochainement en application Android et Apple, à 3h du matin, en pleine insomnie, on pourra revisiter l'exposition de la Perche et toutes les autres.
Mais il y aura aussi... Ça, c'est à partir du 11 janvier, je crois, hein, c'est ça.
À partir du 11 janvier, le temps de développer les applications. Mais en même temps, il y aura un espace dans le musée avec des lunettes de réalité virtuelle où les visiteurs pourront venir revoir des expositions. Au même titre qu'ils pourront, au centre de documentation, continuer de voir les catalogues, il y aura cet espace. Et je crois qu'il faut pouvoir avancer avec les outils qui nous sont offerts. Le numérique peut faire peur, le numérique peut être synonyme de perte de contact avec l'œuvre, mais en utilisant à bon escient, je crois qu'on peut continuer d'amener les visiteurs vers les expositions et vers la connaissance finalement. C'est là tout l'enjeu. Et puis par ailleurs, il y a tous ceux qui ne pourraient pas venir voir l'exposition. C'est un public qui est finalement plus important que le public qui vient voir l'exposition. Et donc, cela permet de lui apporter le contenu. Alors, tout cela est très, très frappant puisque le premier jour de lancement de cette visite immersive interactive, 40% de la fréquentation a été américaine. Donc, sur 460 visiteurs, 40% étaient américains. Donc, cela montre que l'intérêt est aussi de pouvoir amener un contenu vers des publics qui ne pourraient pas venir. Alors, en temps de Covid, c'est évident, mais cela concerne aussi des personnes qui seraient en situation de handicap, qui habiteraient loin, qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer pour X raisons et qui vont pouvoir, malgré tout, avoir accès, alors on pourrait dire à un ersatz, puisqu'il s'agit d'une version numérique, mais que nous avons poussé au maximum de la sensation immersive, vraiment, pour donner retranscrire finalement la très belle scénographie de Nathalie Crinière, les enregistrements de voix qui ont pu être faits, les douches sonores que l'on peut retrouver dans les cartels, le contenu des cartels, qui finalement font que les voix off, comme vous disiez, qui permettent aussi de ne pas avoir de temps de lecture trop long si on veut simplement se contenter de la version audio. La musique aussi, qui est finalement ce qu'on voudrait pouvoir mettre dans une exposition et on ne pourrait pas pour des causes de brouhaha. On a une version immersive qui nous plonge pendant une demi-heure, une heure, selon le temps de visite, dans le monde de Jean-Marie Delaperche.
Pour revoir une exposition, le plaisir de revoir une exposition qu'on aurait manqué ou qui aurait eu lieu il y a quelques années et qu'on n'a pas pu voir pour plein de raisons. Cet aspect d'archives en fait et de mémoire du musée qui est fondamental aussi hein, pour la recherche et puis pour l'histoire. Est-ce que du coup ces expositions virtuelles qui reprennent donc l'exposition réelle, seront visibles dès l'ouverture de l'exposition réelle ou est-ce que ce sera une manière de revoir justement l'exposition et donc ce sera accessible plutôt une fois que l'exposition réelle aura eu lieu, comme une sorte de remake?
Alors, il faut toujours laisser du temps au temps. Et pour réaliser ce travail, il a fallu cette fois-ci plusieurs mois entre la numérisation de l'espace qui a eu lieu en juillet, l'intégration des textes, le traitement de chaque œuvre indépendamment, afin d'avoir vraiment un rendu le plus fidèle possible aux couleurs, l'intégration des voix, les enregistrements. Il y a eu énormément d'étapes qui nous conduisent jusqu'en décembre. Donc, il sera difficile de pouvoir proposer dès l'ouverture des expositions le contenu, dans la mesure où il faudra laisser le temps de pouvoir réaliser tout ce contenu.
Oui, oui, effectivement. Et ce que j'entendais par là, c'est que, à mon avis, effectivement, c'est pas plus mal, dans le sens où les visiteurs, l'idée, c'est quand même que les visiteurs viennent toujours au musée.
Et en même temps, je crois foncièrement que voir un projet dans une version numérique ne peut que donner envie de le voir en vrai. On voit passer des œuvres en permanence dans des catalogues, sur Internet, et les musées sont toujours pleins à craquer parce qu'à un moment donné, l'envie de voir l'original est plus forte. Et voir l'image, qui ne reste une fois plus qu'un ersatz de la réalité, donne envie de voir la réalité. Et je suis convaincue que ces expériences immersives qui permettent d'avoir un similé de l'exposition ne peuvent que promouvoir ce que l'on propose en vrai, avec l'envie de voir le tableau, les tableaux. Disons que c'est une façon de voir aussi un peu à l'avance ce qui nous attend. Alors, avec un aspect négatif, c'est qu'une fois qu'on a visité l'exposition de manière virtuelle, il n'y a plus les effets de surprise qui peuvent être ménagés. Évidemment, c'est tout le travail de scénographie. Mais hormis ce détail de l'effet de surprise qui pourrait disparaître à la visite réelle, je suis convaincue que le numérique, utilisé à bon escient, ne peut être qu'un moteur de plus pour une visite sur place, pour se déplacer et voir l'exposition.
À votre connaissance, c'est la première fois qu'un musée des Beaux-Arts conçoit une telle exposition virtuelle?
Alors, nous avons fait partie des premiers à nous lancer dans l'aventure. Il y a différentes façons de faire une visite virtuelle. Certains prestataires nous proposaient de venir filmer et mettre en ligne deux jours plus tard. Avec plusieurs mois de travail, évidemment, c'est un autre produit que nous avons choisi, beaucoup plus coûteux d'ailleurs. Mais quand on s'inscrit dans la durée, puisque l'idée est que l'exposition soit visible à jamais, il est préférable de la faire le mieux possible. Donc, d'autres musées, depuis, ont lancé des visites virtuelles. Et je tiens à souligner la différence entre une visite virtuelle et une visite immersive. Il y a une expérience de connaissance, de découverte, qui est beaucoup plus complète. Donc, beaucoup de musées se lancent actuellement dans cette démarche, et c'est absolument formidable puisque particulièrement avec la fermeture des musées, il est important de pouvoir maintenir le lien avec les visiteurs et de pouvoir donner des contenus. Et on le voit par d'autres biais, notamment des vidéos que nous faisons quotidiennement sur le Facebook du Musée des Beaux-Arts, nous touchons un nouveau public. Nous avons énormément de nouveaux followers qui nous envoient des messages d'ailleurs très réconfortants par les temps qui courent en nous disant qu'ils viendront nous voir et voir les collections à la réouverture et qu'ils découvrent le musée par ce biais-là. Alors qu'ils soient locaux, qu'ils soient plus éloignés d'Orléans. Mais en tout cas, le numérique est en train de modifier profondément notre pratique, notre pratique de découverte. Et l'exposition virtuelle en fait partie.
Oui, alors cette agence Extra Art donc a conçu toute cette nouvelle technologie de visite virtuelle en 3D. Vous disiez que c'était un coût. Ça a été difficile à prendre cette décision parce que j'imagine que voilà, sur le budget annuel du musée, c'est quand même assez important.
Il a fallu s'adapter assez rapidement. Les budgets sont votés l'année précédente et évidemment, personne ne s'attendait au Covid et personne ne s'attendait à ce coût supplémentaire. Bon an, mal an, certains engagements n'ont pas pu se faire non plus. Donc, on a pu sanctuariser la somme. Donc, le devis complet était de 35 000 euros avec une partie qui a été prise en charge en mécénat de compétences par ExtraArt qui passe par de très nombreux prestataires. 25 000 euros ont été pris en charge par la collectivité d'Orléans Métropole et 8 000 euros ont été pris en charge par ExtraArt eux-mêmes qui ont travaillé en mécénat de compétences. Cela a permis que nous puissions mener à bien ce projet dans des délais courts immédiatement et pouvoir offrir aux visiteurs perdus, aux visiteurs qui tapaient à une porte fermée, un contenu et pouvoir continuer de diffuser l'œuvre de la Perche. Et puis parallèlement, donc la question se pose pour les années à venir puisque il n'est plus question d'avoir simplement un one shot, mais bien une bibliothèque, une plateforme, enfin, appelons-le comme on veut, en tout cas, une réunion d'expositions qui continueront de vivre par un biais virtuel. Et donc, désormais, c'est intégré dans nos budgets. Et évidemment, nous cherchons des partenaires, des mécènes. De plus en plus d'entreprises se lancent dans ce type de mécénat. On peut citer la Fondation Orange, qui notamment est très, très engagée dans les contenus numériques. Et avec cette nouvelle technologie qui est en train de se développer, je crois que les années à venir seront pensées très différemment dans l'utilisation des budgets, notamment des services des publics, puisqu'il s'agit bien de là.
Oui, on est vraiment à un tournant aujourd'hui et finalement la crise du Covid-19 a presque nous a fait basculer encore plus avant dans ce changement de pratiques muséales de visite et justement avec les nouvelles technologies. Vous êtes depuis 5 ans directrice des musées d'Orléans. À quel moment vous avez finalement senti cette nécessité de se dire il faut vraiment qu'on y aille, qu'on fasse le pas et qu'on crée des expositions virtuelles?
Alors, les expositions virtuelles existaient de manière plus succincte sur des sites internet. Alors, les musées de la région centre, notamment, ont des présentations qui sont des sortes de PowerPoint très évoluées.
C'est pas pareil quand même.
Et le deuxième confinement nous a confrontés à ce besoin vital, en fait, de quand même nous adresser aux visiteurs. Je dirais que c'est presque un besoin égoïste qui a été très fort pendant le premier confinement où les équipes n'avaient pas accès au musée, où j'étais seule dans le musée avec d'autres conservateurs qui ont pris les rotations par la suite. Mais seule, on ne peut pas produire de contenu. Et le deuxième confinement a été une sorte de pulsion. À l'instant où il a été annoncé que les musées fermeraient, le lendemain, nous mettions en place toute une série de rendez-vous, de live à 17h tous les jours pour parler des œuvres, des métiers, de cette vie des musées, avec un besoin réel de nous adresser aux visiteurs. Et ce qui a été formidable, c'est que les visiteurs ont été présents immédiatement, avaient ce besoin inversement d'un musée dans lequel ils ne vont pas forcément, au demeurant, mais ce besoin de voir ce dont on les prive. Et c'est ça qui est formidable. Finalement, ce patrimoine, c'est celui de tous les Français. C'est un patrimoine commun. Et au moment où on dépossède les usagers de ce patrimoine, ils ont envie de le découvrir. Et donc, par le biais du numérique, qui aujourd'hui est facile à mettre en œuvre, hein, il suffit d'un smartphone et d'une caméra, on peut continuer de faire vivre les collections. Donc, c'est un besoin d'ailleurs qui a été vécu par plein de musées. Ce deuxième confinement a été très riche en créativité, hein, de tous les côtés, des musées avec de gros budgets, des petits budgets, et tout le monde s'est lancé dans cette aventure. Puisqu'on le voit, on touche d'autres visiteurs, et notamment des publics empêchés, notamment des personnes dans des EHPAD qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et qui nous regardent. Et voilà, ce sont des aventures humaines très, très importantes pour les musées, qui évidemment cherche, et c'est particulièrement vrai pour les musées d'Orléans, à développer ses publics. Nous avons des partenariats avec des associations qui, grâce aux vidéos, ont pu continuer. Les scolaires ne pouvaient pas venir au musée, qu'à cela ne tienne. Les contenus ont été filmés. Et finalement, au lieu d'avoir une visite faite en présentiel, terme horrible qu'on utilise désormais, désormais, plus de professeurs peuvent avoir accès sur la plateforme YouTube, sur la chaîne des musées d'Orléans, à toutes ces vidéos. Et donc, on développe finalement le rapport que les scolaires auront au musée.
Oui, alors ce qui est formidable quand je vous écoute, c'est qu'on sent déjà l'enthousiasme vraiment très, très fort. Et finalement, vous avez presque déjà, parce que c'est très récent, évidemment, cette démarche, ça a été mise en place là à l'automne pendant le deuxième confinement. On sent déjà cette joie de voir la réaction du public, presque déjà un impact finalement sur cette initiative, alors qu'on est on n'a pas beaucoup de recul encore.
Non, mais la réaction du public a été immédiate. Le premier mois, nous avons eu 300 nouveaux followers, en plus de tous ceux qui nous suivent. Donc, c'est très, très enthousiasmant. Alors, avec un public qui, de tous les âges, il est toujours plus facile aussi de venir voir ce qu'on connaît. On n'aime jamais plus quelque chose que quand on le connaît et qu'on le comprend. Et donc, ces premiers outils ne sont pas des ersatz de visite, ne sont pas des remplacements de contact avec l'original, mais presque des premiers outils pour savoir ce qu'on verra. Quelque chose qui peut dédramatiser une fois de plus la visite au musée, donner envie. Et donc, je suis convaincue que la réouverture ne se fera pas non plus, non pas dans la foule et la cohue, comme peut-être dans les grands magasins, mais de manière intelligente avec des personnes nouvellement passionnées qui renouvelleront nos visiteurs.
Oui, alors 2021 sera sûrement une année cruciale aussi hein, pour vous, pour voir justement au niveau de la fréquentation du musée, de la fréquentation de cette exposition virtuelle sur Internet. On espère que l'exposition pourra rouvrir ses portes peut-être le 7 janvier. Bon, ça c'est encore évidemment malheureusement une grosse interrogation. En tout cas, Jean-Marie Delaperche est à portée de clic, comme on dit.
Jean-Marie Delaperche est à portée de clic sur le site expodelaperche.extraart.fr et il faut évidemment, c'est une application très lourde, donc il est préférable de la visualiser avec Firefox ou Chrome pour avoir vraiment tout le contenu et à partir du 11 janvier dans les transports en commun depuis son canapé en application Android et Apple gratuitement. Expo de la Perche et continuer de la voir éternellement. J'espère que les visiteurs auront plus envie de venir voir avant la fermeture les œuvres en vrai, d'autant plus que je tiens à saluer et à souligner l'engagement des prêteurs. L'exposition a ouvert le 1er février 2020. Elle fermera ses portes le 24 janvier 2021. C'est quasiment un an. On a dépassé toutes les frontières, toutes les limites des expositions habituelles qui durent 3 à 4 mois. Alors évidemment, de nombreux mois ont été dans le noir, donc les œuvres n'ont pas souffert de la lumière. Mais il faut vraiment souligner cette générosité des prêteurs qui ont accepté d'aider ce projet scientifique rare, parce qu'il est très rare de découvrir un artiste de cette importance. La dernière fois, c'était Georges de la Tour en 1934 dans Les Maîtres de la Réalité. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est Jean-Marie Delaperche à Orléans.
Voilà, donc un peintre très tourmenté avec une touche très tourmentée, comme vous l'avez dit, donc une touche pré-romantique, voilà, très très belle à découvrir, donc dans cette période tourmentée comme le peintre. Merci beaucoup Olivia Voisin, je rappelle que vous êtes directrice des musées d'Orléans, également conservatrice des collections modernes du musée des Beaux-Arts d'Orléans, commissaire de cette très très belle exposition Jean-Marie Delaperche à découvrir sans plus attendre donc pendant ces festivités de Noël aussi. Voilà, donc merci à vous, merci beaucoup.
C'était Art Interview avec Julie Chaise-Martin, une émission à retrouver tous les lundis et jeudis à 14h et bien sûr en podcast sur artdistrict-radio.com.